Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Google, Microsoft, Apple, Twitter, YouTube, Uber, Facebook, Instagram.
Bonjour. Internet pour tous, Internet partout, c'est loin d'être une réalité dans le monde et en Europe même, la fracture numérique n'est pas du tout résorbée. Il y a 3 ans, 92% des Danois échangeaient avec leur administration par Internet contre 3% des Roumains, avec une moyenne de l'UE à 52%. Cette fracture, qui se superpose souvent à la fracture économique, est devenue encore plus criante avec la pandémie. En Italie, par exemple, 3,5 millions d'habitants n'ont pas accès à Internet à la maison. Un obstacle de taille pour de nombreux élèves, obligés de suivre les cours à distance, mais aussi pour leurs parents en télétravail. Les détails de cette situation avec notre correspondante Cécile Debarge.
C'est l'une des priorités du gouvernement italien. Investir dans l'Internet haut débit pour toutes les familles et toutes les entreprises d'ici 2026, soit 4 ans avant l'objectif de l'Union européenne dans son plan Digital Compass. L'école à distance qui s'est généralisée depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020 a mis en lumière le retard de l'Italie en matière de numérique. Il y a d'abord un problème d'accès. Près d'une famille italienne sur 3 n'a pas accès à Internet. Il y a ensuite un problème de formation. Seuls 42% des Italiens entre 16 et 74 ans ont des compétences d'informatique de base, contre 58% en moyenne en Europe. 17% des Italiens de la même classe d'âge n'ont jamais utilisé Internet, contre 9% dans l'Union européenne. Dans ce contexte, comment imaginer que l'enseignement à distance, qui a largement prévalu en Italie depuis plus d'un an et demi, ait garanti un accès égal à l'éducation à tous les élèves ? Les familles les plus pauvres sont les plus touchées. Près de 77% d'entre elles n'ont ni un ordinateur fixe, ni portable ou une tablette. Le seul accès à Internet se fait alors sur le téléphone portable. Il serait 6 millions au total. Conséquence de cette difficulté d'accès à l'enseignement à distance, les chiffres de l'abandon scolaire ont atteint des records pendant les confinements. La rentrée des classes qui a eu lieu cette semaine en Italie sera l'occasion pour les professeurs de constater combien d'élèves ne se présenteront probablement plus. Près d'un élève sur 5 est à risque d'abandon scolaire en Italie, 1 sur 3 dans le sud du pays.
En Turquie, les citoyens ne naissent pas égaux en matière de vitesse de connexion à Internet. Dans les régions les plus à l'est du pays, le quotidien sur Internet est fait de messages d'erreur et d'accès qui se bloquent. Et là, c'est tout simplement le manque d'infrastructures qui est en cause. À Istanbul, les explications de notre correspondante Anne Andlauer.
Au premier coup d'œil, la population turque semble très connectée. Près de 8 habitants sur 10 utilisent Internet, ce qui place le pays au 31e rang mondial dans le dernier Digital Report, classement de référence. De plus, les Turcs restent connectés longtemps, 8 heures par jour en moyenne, soit 12e au classement mondial. Mais être très connecté ne signifie pas toujours être bien connecté. Et une partie de ces 8 heures d'Internet quotidienne inclut sans doute chez certains le temps passé devant un écran en attendant qu'une page se charge ou qu'un fichier se télécharge à cause d'une connexion qui rame. De l'ouest à l'est de la Turquie, sur un territoire qui couvre plus de 1600 km, la fracture numérique est une réalité. Autant un habitant d'Istanbul, Bursa, Izmir ou Ankara, la capitale en Anatolie centrale, a peu de mal à surfer sur ses sites préférés, autant un internaute de Kars ou Hakkari, dans l'est et le sud-est, doit vivre avec une connexion souvent lente et capricieuse. La principale raison est simple, le manque d'infrastructures dans ces régions qui sont nettement moins développées économiquement que l'ouest du pays, alors qu'elles comptent tout de même 15 millions d'habitants, soit environ 18% de la population. L'accès à la fibre optique y reste rare, voire inexistant. Selon Isaac Ihtiyaroğlu, un ingénieur informatique interrogé récemment par le journal en ligne Journo, la vitesse de téléchargement à Hakkari avoisine les 6 mégabits par seconde. Cette lenteur régionale plombe le score de la Turquie dans les classements mondiaux. En juillet, elle était 98e avec une moyenne nationale de 38,6 mégabits par seconde dans le Speed Test Global Index. En Anatolie orientale, les habitants ne sont pas mieux lotis avec leur Internet mobile. Beaucoup de quartiers, y compris centraux, n'ont pas encore la 4G. Dans les villages, parfois, c'est carrément le réseau téléphonique qui manque. Les jeunes de ces régions, kurdes pour la plupart, sont les premiers à se plaindre de ces inégalités, qui s'ajoutent cependant à bien d'autres inégalités anciennes entre l'Est et l'Ouest de la Turquie.
Internet.
C'est une pépite parmi les startups engagées dans la lutte pour l'accès au numérique en France. Elle s'appelle Connexio et elle a développé un système de formation qui s'adresse aux 13 millions de personnes victimes de la fracture numérique. Parmi les apprenants de Connexio, 40% de réfugiés et demandeurs d'asile et beaucoup de personnes qui n'ont pas fait d'études. Grâce à la formation, le facteur d'exclusion peut devenir un formidable débouché. Dans le numérique, en effet, on embauche 2,5 fois plus qu'ailleurs. Créée en 2016, l'entreprise compte avoir formé 10 000 personnes d'ici 3 ans. Reportage au siège de Connexio de Frédéric Lebel.
Une quinzaine de trentenaires, laptop posé sur de vastes tables en bois, plus loin des salles de cours, séparées par des verrières, des canapés de couleur. Pas de doute, nous sommes bien dans une start-up.
On peut se mettre peut-être à côté, si ça vous embête pas.
Jin Guo, jeune américaine de 29 ans, est la fondatrice et aujourd'hui directrice d'une entreprise qui porte haut ses valeurs.
Il y a des talents partout, mais les opportunités sont pas les mêmes. Et je pense pour nous, c'est partie de nos convictions très fortes de pouvoir en fait équilibrer et donner accès à des opportunités. Et donc, ce qu'on a chez Connexio, c'est des parcours, des programmes de formation qui sont accessibles sur certains métiers numériques. Par exemple, on a des parcours chez nous, développeurs web, web mobile, technicien système et réseau, qu'on avait créé pour être accessible. Pour nous, c'est pas important forcément que vous avez déjà fait une formation en maths ou en IT pour pouvoir suivre ces parcours. Ce qui compte le plus chez nous, c'est la motivation et l'appétence pour le métier.
Cette surdiplômée de Harvard et Stanford a découvert la France par le biais d'une bourse pour faire des recherches en économie. En 2015, lorsque des centaines de milliers de réfugiés arrivent en Europe, c'est comme fille d'immigrés qu'elle analyse à la fois les aides d'urgence qui sont données, mais aussi les manques pour l'insertion professionnelle.
Je suis née en Chine et je grandis aux États-Unis et j'avais vu à la base les obstacles de ma mère surtout parce qu'elle était arrivée dans un pays où elle ne parlait pas la langue, elle n'avait pas de réseau professionnel et à tout petit âge, j'ai commencé en fait à traduire des choses pour elle parce que par exemple, elle avait peur de décrocher le téléphone parce qu'elle ne comprenait pas ce qui était dit de l'autre côté. Et pour moi aussi, si je n'avais pas eu le soutien de certains de mes professeurs pour m'encourager de postuler par certaines universités. Je pense que j'aurais pas osé de faire ça, j'aurais pas eu cette confiance en moi. Et donc je pense que c'est des convictions assez fortes que quelquefois on choisit pas en fait où on est né, mais s'il y a quelqu'un qui peut aider en fait à ouvrir en fait accès à des opportunités, à des informations, ça peut vraiment changer la donne.
Donc à l'aide de l'URL suivante, là comme c'est indiqué, vous créez un tableau vide.
Dans la salle du fond, une quinzaine d'apprenants travaillent sur des exercices concrets de programmation. Didier a terminé la formation il y a tout juste un an et c'est aujourd'hui en tant qu'assistant qu'il vient seconder le formateur. Il faut être motivé pour suivre les 4 mois et demi de formation.
Oui, très très intensive. Il faut vraiment être très impliqué. Ça peut être très très dur parfois. Ça demande de l'investissement personnel, donc beaucoup de travail à la maison pendant les congés, les jours fériés, les week-ends. Pour ceux qui sont plus à l'aise, ça leur demandera peut-être moins de travail, quoique ils se mettent aussi souvent beaucoup plus la pression. Mais en effet, la formation ne s'arrête pas au mur de Connexio. Il faut vraiment être curieux, c'est ce qu'est un développeur. Il doit être curieux, chercher par lui-même, essayer d'aller toujours plus loin et jamais désespérer.
Le cours académique n'est pas tout. La classe très hétérogène peut aussi être un atout en termes pédagogiques.
On a des niveaux très différents, ce qui permet en fait aux personnes qui sont plus avancées d'aider ceux qui ont moins d'expérience dans le code. Et du coup, le fait de transmettre, ça permet aussi d'apprendre en même temps. Et les élèves, ça leur montre que le monde du développement, c'est aussi un monde d'entraide où les gens vont chercher des informations et d'autres vont en donner spontanément, gratuitement. Notamment sur les réseaux, sur les forums, sur des choses comme ça. Quoi.
Tu passes même sur YouTube. Ils vont te dire exactement comment paramétrer ton...
On fait ça.
Il n'y a que 2 filles dans le groupe. Les femmes, là aussi un public qui s'interdit le numérique pour les mauvaises raisons. Fatoumata, 34 ans, est en reconversion. Elle n'a pas le bac et un parcours scolaire en pointillé avec de nombreux retours au Mali. Pas forcément la bosse des maths, mais une vraie motivation.
C'est un peu plus de la logique et de bon sens, je dirais, je sais pas. Mais non, il n'y a pas à avoir une grande connaissance en maths. Parce que moi, j'ai même pas fait la partie collège. J'ai fait l'école primaire à peu près comme tout le monde. Après, j'ai fait 5 ans dans mon pays. Donc, j'ai sauté la partie collège. Et quand je suis revenue, j'ai fait une troisième d'adaptation. Donc, je suis là quand même. Donc, c'est que c'est possible pour tout le monde.
Faites une petite pause de 15 minutes, pas plus, hein, on est d'accord ?
En fin de semaine, on apprend plutôt ce qu'on appelle les soft skills, entendez l'écriture du CV, la présentation. Et là, ce sont les bénévoles comme Kurt Knabe qui vient donner de son temps pour initier à l'informatique, mais aussi au monde de l'entreprise.
Je montre aussi aux gens que j'ai en formation comment s'articule ou s'organise un CV qui est lisible par un recruteur et tous les pièges ou les mauvaises constructions d'un CV qui font que le CV est à peine lu, il est mis à la poubelle et le recruteur ne va pas répondre. En même temps, il y a une approche technique, informatique, mais en même temps un savoir-faire pour aller vers les entreprises.
Amener les publics les plus éloignés du travail vers le numérique, Connexio s'y emploie aussi à l'autre bout du monde, dans des camps de réfugiés. Au Malawi, 60 apprenants formés à l'informatique ont pu générer des revenus de $500 par mois sur les plateformes numériques. L'expérience va être développée l'année prochaine au Kenya et en Jordanie. Essentiel quand on sait que les réfugiés restent en moyenne 17 ans dans les camps.
Alice Rouja fait son entrée dans le studio. Bonjour Alice.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver. Cette semaine, votre Europe, c'est celle des jeunes ultra connectés qui ont la bougeotte. J'ai nommé les nomades numériques, ces chanceux qui travaillent en voyageant.
Oui, et dans ce monde où les anglicismes sont rois, ils se font appeler les digital nomads, sans être dans une traduction littérale, digital pour numérique et nomade pour voyageurs, donc.
Et que font ces gens qui travaillent en voyageant, Alice ?
Des métiers qui ne se pratiquent, ça paraît logique, que derrière un ordinateur. On pense aux youtubeurs et influenceurs, parce que c'est dans l'air du temps, mais c'est le cas des graphistes, des communicants, des créateurs d'applications, et puis des employés dont les entreprises ont établi des accords de télétravail. L'idée, c'est de travailler d'où l'on veut, si l'on suit la définition. J'ai par exemple été une nomade numérique hier, en rédigeant cette chronique depuis l'appartement d'Amie Lillois.
Et depuis la pandémie de Covid, c'est un modèle en plein essor.
Oui, mais en fait, le mode de vie n'est pas nouveau. Dès les années 1990, c'est le développement d'Internet et de ses usages. Beaucoup de travailleurs du numérique ont décidé de rompre avec le terrible adage métro-boulot-dodo. Et c'est vrai que la pandémie a mis en lumière les avantages du télétravail. La fin des horaires imposés, moins de pression de la part de la hiérarchie, et donc plus d'épanouissement au travail et aussi du dépaysement.
Et où vont-ils alors, ces nomades numériques ?
Eh bien, Juliette, ils voyagent beaucoup, en avion ou en van, ça dépend de ce qu'ils préfèrent, et ils ont tendance à s'installer dans les pays où le coût de la vie est moins cher. En Europe, ils sillonnent les côtes du Portugal à la Grèce, mais ils peuvent aussi bouger de capitale en capitale, de Prague à Budapest, par exemple, parce qu'avec un salaire français, même au sein de l'Union européenne, leur pouvoir d'achat est souvent rehaussé.
Ce qui intéresse évidemment certains pays qui y voient une nouvelle source de revenus.
Oui, parce qu'avec la diminution drastique du tourisme et la perte des revenus que cela engendre, plusieurs pays n'ont pas tardé à lancer de nouveaux visas pour les digital nomades. Au-delà d'accueillir des ressortissants européens, ils ont bien envie de faire venir des Américains ou des Australiens. Et ces nouveaux visas hybrides permettent de travailler sans contrat de travail dans le pays concerné et de rester plus longtemps qu'avec un seul visa touristique. La situation idéale pour un nomade qui a justement tendance à jongler avec les visas. Et dans les pays européens, c'est le cas de l'Estonie, premier pays à proposer un statut pour les e-residents qui peuvent rester un an. En Allemagne, plus généreux, avec les télétravailleurs voyageurs, ils peuvent rester jusqu'à 3 ans. En Grèce, la législation avance aussi et on en profite pour améliorer le réseau Internet. La 5G est en train d'être installée en Crète et c'est vrai que les nomades apprécient beaucoup les petites îles, les coins paradisiaques, je les comprends.
Et comme je les comprends, moi aussi. Donc c'est un atout pour le développement.
Oui, et puis il y a des endroits qui comptent vraiment sur les nomades, notamment pour réinvestir des villages laissés à l'abandon. C'est le cas en Espagne où 43% des villages sont dépeuplés. Alors, on construit des espaces de coworking, on intensifie le réseau Internet et on dépêche des habitants pour accueillir les nomades numériques dans l'espoir de faire redémarrer l'économie locale.
C'est très beau tout ça, Alice. Ça donnerait presque envie de s'installer dans un petit coin tranquille, mais c'est une conception un peu individualiste de la société, non ?
Oui, c'est vrai que ces jeunes, la moyenne d'âge du nomade numérique est de 30 ans, envisagent le monde de façon très libérale. Ils ont généralement un statut de freelance et cela pose des questions en matière de fiscalité, de protection sociale. Mais il y aura forcément des ajustements et l'enjeu sera d'encadrer politiquement le statut de nomade numérique et de l'inclure dans les modèles économiques. D'autant que, selon le Guardian, ils seront 1 milliard en 2020. 2035.
Merci Alice Rouja, à la semaine prochaine.
Download.
Comme des milliards de personnes à travers le monde, vous conservez peut-être vos photos, vidéos, documents sur un cloud très efficace pour accéder depuis n'importe quel appareil connecté à ces données, d'où une préoccupation cruciale, la sécurité. Et d'où le choix surprenant de la Suisse, puisque cet État a décidé de confier le stockage de ces données à des sociétés basées à l'étranger, et notamment en Chine. Les spécialistes de la cybersécurité sont donc vent debout. Reportage à Genève de Jérémy Lanche.
Donc ici, on se trouve devant notre rack de serveurs qu'on utilise purement à l'interne pour les utilisateurs. C'est vraiment des rangées comme ça dans des grands data centers. Quand on parle des offres qui ont été faites, là, on a presque des hectares de ce genre de choses.
Bienvenue chez ProtonMail, l'une des messageries cryptées les plus sécurisées au monde, très prisée par les militants des droits de l'homme et les opposants politiques. L'entreprise n'a pas choisi la Suisse par hasard. En y installant ses serveurs, ProtonMail garantit à ses utilisateurs que leurs données ne pourront pas être communiquées aux autorités européennes ou américaines, ce qui n'est pas forcément le cas avec les géants du numérique que sont Amazon, IBM, Microsoft et Oracle, à qui la Suisse va confier ses serveurs. Marc Lobeken est responsable juridique chez ProtonMail.
Il y a toujours la possibilité que les gouvernements mettent des backdoors, soit par contrainte envers les sociétés, ou bien même des fois, comme on a pu voir les GAFAM collaborer avec la NSA de manière vraiment volontaire. Donc il y a toujours cette possibilité qui existe que les données soient vues et soient traitées par le gouvernement du lieu d'incorporation du fournisseur. Et c'est d'autant plus sensible quand il s'agit de personnes qui ont des divergences politiques avec le régime de Pékin, ou ça peut être des États-Unis aussi d'ailleurs.
Car un autre gagnant de l'appel d'offres inquiète autant, sinon plus, les spécialistes de la cybersécurité. C'est le chinois Alibaba. Une entreprise chinoise pour garder les données d'un État européen dans un pays où tout citoyen a l'obligation de collaborer avec les services de renseignement. Jean-Henri Morin est spécialiste en sécurité des systèmes d'information. Il se dit atterré par le choix des autorités.
On pourrait très bien imaginer effectivement qu'un État décide de priver la Suisse de l'accès à ces données en mesure de rétorsion, de représailles, de menaces, etc. Et ça, c'est juste intolérable. Du point de vue des exigences qu'on doit avoir aujourd'hui en matière de souveraineté sur notre espace numérique, au même titre qu'on parle de souveraineté de l'espace aérien, l'espace numérique fait aussi figure d'exigence de souveraineté de la même façon.
La pilule est d'autant plus amère pour le professeur à l'Université de Genève qu'aucune entreprise suisse n'a pu répondre à l'appel d'offres, car l'État demandait que les serveurs soient hébergés sur au moins 3 continents, excluant de facto tous les acteurs locaux.
Le constat est évident, c'est que tous les prestataires suisses aujourd'hui ne peuvent rien faire d'autre que de regarder un spectacle qui va opposer aujourd'hui des géants du numérique qui ont été retenus dans le cadre de cet appel d'offres, qui se disputent un butin avec comme spectateurs nos acteurs suisses qui sont là, qui sont menottés, qui ne peuvent rien faire. Ça pose quand même un gros souci.
Le match n'est pourtant pas complètement plié. Google, qui n'a pas été retenu par la Suisse, estime qu'il a été injustement exclu du marché. Le géant américain a donc déposé un recours en justice. Et des citoyens suisses envisagent également de déposer une initiative populaire pour forcer le gouvernement suisse à stocker ses données sur le territoire national.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur la page podcast de RFI et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. À demain.